Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, une émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour. Et ce, le plus confortablement et le plus simplement du monde, par la simple lecture d'extraits choisis par Hervé Pérol. Hervé, tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Peux-tu nous dire le titre du roman que tu as choisi de nous lire aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vais me risquer à la poésie. Pour ceux qui feraient la tête rien qu'à l'évocation de ce mot, je vais essayer de les rassurer. Je ne vais pas vous lire des poèmes de François Villon ou d'Arthur Rimbaud, quoique je serais bien tenté un jour de le faire. J'ai tout simplement entre les mains un livre de Bernard Dimet, « Je ne dirai pas tout ». Je m'explique. Bernard Dimet était un curieux personnage de la seconde moitié du XXe siècle, pour faire court. Il vivait à Paris dans le quartier Montmartre. Il fut l'auteur de nombreuses chansons, « Syracuse »,« Mon truc en plume »,« Mes mères » pour les plus anciens. Il a été chanté par Yves Montand, Charles Aznavour, Serge Reggiani, Henri Salvador, Syracuse, Juliette Gréco, et puis des tas d'autres, Mouloudji, et puis même plus récemment par le chanteur punk Iggy Pop. On y va ? Vous êtes prêts ? Allez, un premier, mes mères. Mes mères, tu t'en souviens de notre belle époque ? C'était la première fois qu'on aimait pour de bon. À présent, faut bien le dire, on a l'air de vieux schnocks, mais ce qui fait passer tout, c'est qu'on a la façon. Tu te rappelles ta gaie pierre ? À présent, quand j'y pense, j'en rigole tout doucement, mais c'est plus fort que moi. Comment que tu ferais maintenant pour y loger ta panse ? On a pris de la bouteille tous les deux à la fois. Mes mères, tu t'en souviens comme t'as fait des histoires pour me laisser cueillir ta marguerite au champ. Et pourtant, c'était pas vraiment la mer à boire. Ça t'a fait des ennuis, mais c'était pas méchant. Tu te rappelles comme j'étais, je ne savais pas quoi dire. Pour un peu, il y a des fois, je t'aurais bien dit des vers. T'as bien changé, mes mères, quand je vois ta tirelire. Comment que ça me donne envie de faire la route à l'envers. Mes mères, tu t'en souviens des petits diabolomantes, des bouteilles de mousseux du 14 juillet, un éclair au café, je veux bien, mais faut que tu chantes. Chérie, t'as renversé ton verre, faut l'essuyer. Mon Dieu, c'est pourtant vrai que je t'appelais chérie. Il ne faut pas m'en vouloir, mais je ne m'en souvenais plus. On parle de souvenirs, mais c'est fou ce qu'on oublie. Je te demande pardon, chérie, et qu'on n'en parle plus. Mes mères, si je te dis ça, c'est pour te dire que je t'aime. Te le dire comme ça, tout cru, c'était trop dur pour moi. Mais au fond, je suis content. Je vois que t'as compris quand même. Et je peux te le dire, mes mères, j'ai jamais aimé que toi. Son appétit de vie fait que Bernard Dimet brûle la chandelle par les deux bouts, mais ne saurait cacher son mal de vivre et la musique obsédante de la mort qui pesait sur lui.
On la refait.
Alors je reviens à la fin.
Non, bouge pas. Je vais juste envoyer le. Et on en laisse combien ? 5 secondes ?
Oui, 5 secondes. Oui.
Non, c'est bon. C'est bon. Attention, je coupe pas le micro.
Un jour, au fond des mers, je prendrai mes vacances. J'aurai l'âge qu'il faut, ou peut-être un peu moins. Tout seul, dans les jardins de l'éternel silence, j'irai très lentement comme ceux qui vont loin. Tranquille, à pas compter, marchant sur des éponges, des étoiles de mer sur ma barbe et mon front, ce sera le plus beau, le dernier de mes songes, un jour de grand soleil, par 100 mètres de fond. Porté par les courants vers la mer des Sargasses, vers le grand cimetière où dorment les bateaux, j'irai vers le sommeil des grandes marées basses, et les poissons d'or fin glisseront sur ma peau. Et j'abandonnerai mon corps à la dérive, les deux yeux grands ouverts autant que je pourrai. J'essaierai doucement de gagner l'autre vire, l'autre rive, où mort déjà 100 fois je recommencerai. Je reviendrai vers vous, vers les courants contraires, débarrassé de moi, limpide et transparent. Les paupières collées et l'âme enfin légère, un nouveau-né parfait qui n'a pas de parents. Mais Bernard Divet pouvait également se montrer parfois très romantique. C'était à Chenonceau par un après-midi de juillet transparent. Je n'ai croisé personne, le brouillard est tombé sur les jardins fleuris. Non, c'était à Chambord, au début de l'automne. Nous avons tous les deux gravi ces escaliers, encore tout frissonnant d'amour, pourtant lointaine. C'était à Cheverny, je n'ai rien oublié. Une brise de mai caressait la Touraine. J'avais le cœur tout neuf, encore à Chenonceau, je rêvais en secret d'une princesse morte. C'était au mois d'avril, près d'Azel-Rideau, et je t'ai vu passer légère entre deux portes. Mon regard d'un seul coup s'est pris dans tes cheveux. Un instant j'ai sondé ton regard de turquoise. J'ai peut-être souri. Quel moment fabuleux. Déjà la nuit tombait sur le château d'Amboise. La nuit calme et limpide effaçait le décor. La brise caressait les harpes du silence. Si ma mémoire hésite entre Amboise et Chambord, ce que nous avons fait seuls a de l'importance. C'était à Chenonceau, peut-être à Saint-Amand, peut-être à Beauregard. Une chose est certaine, le moyen le plus sûr pour faire des amants est de se rencontrer par hasard en Touraine.
Dans la rue, épouvantail tout gris que la cité a exclu. Les rues, les gens et le monde vont bien trop vite pour lui. Dans ses yeux absents d'enfant, parce que l'effroi du temps, pour descendre et remonter 6 étages d'escalier, il faut l'éternité. Quelle faute a-t-il pu commettre, le vieux tout gris qui traîne ses vieux membres rassis? Un geste, un mot, un sourire pour le raccrocher à nous. La vieillesse nous fait frémir, on ne veut pas croire au pire. Nos yeux ne retiennent d'elle qu'une image irréelle. Mon vieux à moi tous les mois va à tout petit pas empocher sa pension. Il se ménage au retour un détour insolite chez le glacier du coin. Je serai vieux et tout seul, demain ou après-demain, je voudrais comme celui-là, au moins une fois par mois, avec mes sous si j'en ai, m'acheter une glace à deux boules et rêver sur leur saveur à un monde rempli d'enfants. Et peut-être que pour nous, nous les vieux de demain, la vie aura changé en s'y prenant maintenant, nous-mêmes et sans attendre à refaire le présent. Je donne à ceux qui sourient, et qu'ont bien le droit de sourire, rendez-vous dans 20-30 ans, pour reparler du bon temps.
Bernard Dimet fut également peintre. Il signait ses toiles sous le pseudonyme de Zelter. Il a d'ailleurs partagé sa vie avec une artiste peintre, sculptrice, du nom de Yvette Catiard. Mais à 25 ans, il a décidé d'abandonner ses pinceaux pour se consacrer à la chanson. Connu donc de tous les artistes, je vous le disais tout à l'heure, artistes de son époque évidemment, qui se darguaient même d'être son ami, il pouvait se permettre de se montrer anticonformiste ou même volontairement provocateur. Si tu m'avais connu quand j'étais jeune et belle, il y a seulement 5-6 ans, t'aurais sauté en l'air. Je peux dire que je fauchais mon oseille à l'appel, l'amour. C'est un pactole, mais faut savoir le faire. J'ai fait mes premiers pas dans l'île de la Cité. J'avais dans les 13 ans, je ne connaissais personne. La chance m'a fait croiser le cocu d'une baronne et ce qui l'a flingué, c'est ma féminité. À 17 ans, j'avais 4 amants, 5 voitures. Pour avoir du pognon, j'avais qu'à lever les cils. Mais ce qu'il faut trouver, c'est des liaisons qui durent. Après, ça va tout seul, on a la vie facile. J'étais connu partout, j'étais le roi des plages. Tu peux même pas savoir comme j'étais beau tout nu. Maintenant je fais boudiner, qu'est-ce que tu veux, c'est l'âge. T'aurais pas résisté si tu m'avais connu. Au fond, c'est la patrie qui a brisé ma carrière. J'étais avec un vieux milliardaire à Capri. Je me suis retrouvé sans un. 18 mois militaire avec des gens vulgaires. C'était pas le même esprit. Quand je me retrouvais le soir à la chambrée, me faire des nouveaux amis, moi je demandais pas mieux. Ils m'ont traité de tout, j'en étais bouleversé. Tout ça parce que j'avais du ribelle sur les yeux. Tu sais, J'ai toujours eu l'épiderme fragile. Faut que je mette de la crème, sinon je suis tout fripé. Fallait que je le fasse en douce, il me laissait pas tranquille. Un jour, j'en pouvais plus, je les aurais bien griffés. J'étais tout blond dans le temps, blond, doré, couleur paille. T'aurais dit Jean Marais dans l'éternel retour. Ils m'ont tondu, rasé, c'est malin comme trouvaille, hein, attaché sur une chaise au beau milieu de la cour. J'ai dit, puisque c'est ça, fini les gentillesses. J'ai vampé le colonel et je l'ai tout compromis. Il m'écrivait des lettres ou qui me parlait de mes fesses. Ils ont dû le déplacer d'ailleurs. Puis, moi aussi. 5 ans d'Afrique du Nord, j'ai fait ça, c'était chouette. D'abord à la Légion, ensuite à la Casbah. Je dansais dans un clandestin, on m'appelait Mistinguette. Si tu savais le pognon que je me suis fait là-bas. Seulement, c'était trop beau pour que ça dure. J'ai dû quitter tout ça, rapport aux événements. Et puis voilà, maintenant je suis chez Madame Arthur. Bien sûr, c'est Paul Pérou, mais je vis correctement. Mais tu vois ce qui m'ennuie, c'est que ce soit à Pigalle, parce que j'aime pas le quartier et je peux plus le supporter. Les putains, je m'en fous tant qu'elles font pas de scandale. Mais il y a vraiment trop de flics. Et puis, c'est plein de pédés. Un autre dans le genre provocateur. Ma sœur avait un cul quasiment historique. Même les vieux du quartier n'avaient jamais vu mieux. Il était insolent, il était poétique, mais le plus fort de tout, c'est qu'il faisait sérieux. On venait de très loin voir cette pièce unique, histoire de dire qu'un jour on s'en était servi. Un cul beau comme un dieu, glorieux et magnifique. Tous ceux qui l'avaient vu s'en retournaient ravis. Avec un cul comme ça, si tu fais pas fortune, ou bien ce sera la flemme, ou bien ce sera que t'es con. Va-t'en un peu l'offrir le soir au clair de lune, et tu verras ma sœur si c'est moi qui ai raison. Il est bien évident qu'une telle merveille ne peut pas être vue par le premier venu. Ma sœur montrait son cul qu'à ceux qui avaient de l'oseille, et on payait d'avance, en or, bien entendu. Grâce à lui, le quartier redevint touristique et retrouva d'un coup toute sa prospérité. Ma sœur battait de loin les courtisanes antiques et c'est elle qui rendit son faste à la cité. Ma mère savait recevoir le client, ça, faut dire. Elle faisait patienter au petit salon d'en bas. Le petit clin d'œil en coin, toujours le mot pour rire. Ah ça, mon bon monsieur, vous ne le regretterez pas. C'est un cadeau du ciel, une fille comme ça, je vous jure. Adorant son travail et modeste avant tout. Avec un de ses pétards, bon pour toutes les pointures, un cul, mon bon monsieur, comme il n'y en a pas beaucoup. Je vous ai dit donc qu'il avait vécu presque toute sa vie dans le quartier Montmartre. Et qu'est-ce qu'on rencontre ? Dans Montmartre. Mes copines du quartier ont toujours le sourire. Au début, je me disais, c'est le coin qui veut ça. Je leur parlais d'amour, mais ça les faisait rire. Moi, j'étais tout genou, je ne comprenais pas. Les femmes ne sont jamais toujours très faciles à comprendre. Quand je parlais d'amour, elles me parlaient d'argent. J'essayais les soupirs, les yeux doux, les mots tendres. Mais ça ne marchait pas, c'était décourageant. Mes copines se promènent à longueur de journée, le sourire accroché comme sur un dépliant. Elles remontent la rue en première de cordée, suivies d'un amoureux qu'on appelle un client. C'est Nadia. C'est Michel, Pierrette et compagnie, ça connaît le cœur humain jusqu'au fond du panier. Reine de l'amour fou qu'on pratique en série, avec des miches en or et le cœur en papier. Mes copines de quartier sont venues de Bretagne. Un jour de désarroi sont montées sur Paris. Certaines ont conservé l'accent de leur campagne, mais en deux coups de cuillère, elles ont tout appris. Elles en savent bien plus long qu'un vieux curé de campagne, tellement elles en ont confessé des innocents qui sortaient de l'école ou qui sortaient du bagne à l'heure du whisky, à l'heure des croissants. Mes copines du quartier me racontent leur vie et à l'heure du blancasse, je viens les écouter. J'ai compris le plus clair de leur philosophie, ça m'a beaucoup appris et ça ne m'a rien coûté. Entre Irma, langue de velours et Soso la bricole, j'ai fait la connaissance de quelques vérités. Je n'ai pas eu besoin de moisir à l'école, car c'est d'elle que je tiens l'essentiel de mes humanités. Provocateur, Bernard Dimet. Eh oui, on vient de l'entendre. Mais cet esprit rebelle pouvait aussi lui insuffler des idées d'une incroyable modernité. Je change en apparence de sujet. Et là, je me tourne vers mon ami Dominique. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient déjà nés dans les années 70. T'étais déjà né dans les années 70 ?
Oui, il me semble, oui.
Rappelle-toi, Dominique, le livre d'Alain Perfit, « Quand la Chine s'éveillera ».
Ah oui, c'était la fin des années 70.
Exactement. À l'époque, Alain Perfit, bien qu'homme politique respecté de tous, fut, et c'est le moins qu'on puisse dire, controversé pour sa vision de la Chine, pays qui était alors très pauvre, mais qui, du fait de sa population en pleine expansion, deviendrait un jour, disait-il, un pays dominateur. Et voyez ce qu'il en est aujourd'hui. Eh bien, et là j'en reviens à Bernard Dimet. Cet homme, Bernard Dimet, qui ne voyageait pas, puisqu'il passait son temps de bistrot en bistrot dans le quartier de Montmartre, je l'ai dit, il eut la clairvoyance des grands esprits de croire à Alain Perfit. Et il écrivit alors ce texte « Les enfants d'Attila ». Écoutez ce que ça donne. Je crois bien que la Terre est un trop vieux pays. Les hommes ne savent plus imaginer Dieu tout seul au-dessus d'eux. Ils vont leur chemin en silence, en serrant fort les dents, car ce sont des chemins qui mènent au massacre. Toutes les proies sont bonnes et tous les coups permis. Le bout du monde est à deux pas d'ici. La banlieue de Pékin s'étire au long des fleuves et va jusqu'à Marseille à travers les toundras où les petits chevaux des enfants d'Attila sont devenus fossiles. Quelque part, au cœur d'une forêt pétrifiée qui se métamorphose en silence. Le temps travaille à son rythme et les fossiles, quelque part, sous le sable, sous le béton de nos palaces ou le moindre termite à la télévision, les fossiles vont vite. Et les petits chevaux des enfants d'Attila savent bien que le temps des grandes chevauchées ne fait que commencer. Et l'herbe, ce jour-là, ne repoussera plus. Mais vraiment, plus du tout. Le ventre de la terre est toujours en gésine, et c'est là que la mort fait son profit de tout. Je crois bien que la terre est au bout de sa course, un trop vieux pays pour nous tous, où l'homme ne sait déjà plus courir sans tomber. La peur fait son nid partout, au creux des téléphones, sous les nuages qu'on survole. Et derrière le sourire d'incroyables chinois, l'inoffensif est pire que tout. Le pire est derrière la porte, on l'entend respirer et l'on se demande en secret si c'est pour cette nuit ou pour l'année prochaine ou après notre mort. Mais à 30 pieds sous les steppes d'Asie centrale, sous d'incroyables murailles que le vieil empereur Qin fit édifier farouchement avec toutes les pierres de la Chine et la sueur et le sang de millions de chinois, les petits chevaux noirs des enfants d'Attila sont en train d'achever le cycle mystérieux qui conduit au pétrole. Et quand ce temps viendra, quand la vaste forêt qui les ensevelit deviendra poche noire et liquide et gluante et qu'on la percera, alors ils se réveilleront transformés, plus fougueux que jamais, et leurs crinières de flammes claqueront dans le vent sur l'encolure des dériques, et la dernière chevauchée commencera vers l'ouest, à travers les toundras jusqu'au bout de l'Europe, et le troupeau fringant au crin de feu flottant, fouettant, cravachant la terre sous ses pas, et les petits chevaux rouges des enfants d'Attila plongeront dans la mer et jusqu'aux Amériques et jusqu'à l'autre mer pour enfin retrouver le pied de la muraille auguste du vieux Qin qui donna son nom à la plus vaste terre sous laquelle ont dormi les enfants d'Attila attendant patiemment la chevauchée des flammes. Petits chevaux de feu qui passeront sur nous et l'herbe à tout jamais ne repoussera plus, mais vraiment plus du tout.
Oh, comme ça cognait, Phébus à bloc, on s'abritait dans la forêt. Mille sentiers nous parcouraient, mille odyssées à notre porte, les cohortes d'ennui filaient, on le savait, elle reviendrait. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Oh, ça nous voyait comme anguille, dans les ruisseaux qui serpentaient, mains des garçons, cheveux des filles. Et on se cherchait dans les bois. Certains se trouveraient, d'autres pas, mais sans moquer. Qui oserait, même aujourd'hui, qui oserait? Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Mais de Un jour plus rien ne meurt jamais. Toute l'eau stagne dans le puits. On revient seul dans la forêt. Comme hier, se mettre à l'abri. Même si le soleil a pâli. Voilé par tous les jours d'après. On revient seul dans la forêt. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Mais depuis,
enfin, je ne peux pas m'empêcher de jouer au prof. Désolé. En début d'émission, j'ai parlé, tout en m'en excusant, de poésie. Eh oui. C'est si j'ai dit que Bernard Dimet était un poète, c'est qu'il en respectait les codes. Il y a des codes en poésie. Par exemple, en poésie, il y a des vers avec des pieds. Ça veut dire qu'on compte le nombre de syllabes. Des fois, il y en a 5. Des fois, il y en a 7. C'est rare, mais ça existe. Si, si, je t'en dirai un jour, Dominique. Le plus souvent, c'est 8 ou 12 pieds. Quand ça a 12 pieds, on appelle ça un...
alexandrin.
Un alexandrin. Je vous donne un exemple. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Figurez-vous que Bernard Dimet, bien qu'écrivant en langage argotique, écrivait souvent en alexandrin. Et le plus fort de tout, c'est que ces alexandrins rimaient. Et oui, messieurs, dames, les auditrices et les auditeurs, les chansons ou textes que je viens de vous lire, ils riment. On y va pour un autre exemple. Tu viens cet après-midi à la crucifixion ? 12 pieds, ça termine par on. T'as qu'à venir avec moi, ça te changera les idées. 12 pieds, ça se termine par et. Ta bergère est pas là, profite de l'occasion. On. Moi, j'ai prévenu Lévi que je prenais ma journée. Et. J'y ai dit, je veux voir ça. Et puis, j'ai mes raisons. On. Donc, non seulement les vers font 12 pieds, mais en plus, il y a un balancement des rimes. On, et. N'est-ce pas merveilleux ? L'exemple que je viens de vous prendre est de Bernard Dimet et s'appelle « La crucifixion ». Ça parle, comme son nom l'indique, du passage important de la Bible, la crucifixion, qui désigne le moment où Jésus de Nazareth, autrement appelé le Christ, fut, avec deux complices, condamné à mort par le préfet romain Ponce Pilate et exécuté en public en étant cloué sur une croix. Tout ça en haut d'une colline pour que ça se voie de plus loin. Il fallait faire un exemple. Je reviens au poème. Attention, ça ne rime pas toujours en « on » et en « et ». D'ailleurs, dans la crucifixion, donc, le vers suivant dit « Il pouvait pas refuser vu qu'il y va, ces zigs. Donc, il faudra trouver deux vers plus loin, une rime en ig. Dominique, t'as une idée ?
Absolument pas. Absolument pas.
Amis auditeurs, à vous de voir. Bien. Vous êtes prêts pour vous faire crucifier ? Allez, on y va. Tu viens cet après-midi à la crucifixion ? T'as qu'à venir avec moi, ça te changera les idées, ta bergère est pas là. Profite de l'occasion. Moi, j'ai prévenu Lévi que je prenais ma journée. J'y ai dit, je veux voir ça, et puis j'ai mes raisons. Il pouvait pas refuser vu qu'il y va, ces zigs. Ça va ramener du monde et marquer la saison, cette affaire-là, tu vas voir. Mais le truc qui m'intrigue... c'est que sur les 3 clients qui vont foutre au séchoir, il y en a 2, paraît-il, qu'on a dû bien connaître. Ils nous ont fait marron sur un coup de marché noir. On ira les regarder, ça les amusera peut-être. Quand on a eu le tuyau pour les surplus romains, j'avais tout préparé, tout mâché la besogne. On était 5 sur le coup, c'était du cousu main. Quand ils nous ont doublés, on a lâché la pogne, mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est moi qui vais bien rigoler. Comme quoi, mon vieux Polo, il y a tout de même une justice. Comme disait mon vieux père, faut pas tuer ni voler, à moins d'être certain que le coup réussisse. Le troisième, il marche à la gamberge, il jacte à droite et à gauche, on l'a vu venir de loin. Il est pas vieux du tout, il a pas 35 berges, mais on sait pas qui c'est, vu qu'il est pas du coin. C'est un genre de rebouteux. Il guérit des malades. Ça fait 3 ans, guère plus, qu'il est sur le trimard. N'empêche que le pilote et les petits camarades, ils y ont dit d'obéir et d'arrêter son char. Comme disait mon vieux père, la poisse, elle vient toute seule, mais plus tu veux jacter, plus qu'elle va rapidement. Comme quoi, c'est une qualité de savoir fermer sa gueule. Mon père, pour un ivrogne, il manquait pas de jugement. D'ailleurs, en fait, jugement, c'est par là que tout commence. Bon, si tu veux venir, tu viens, mais faut pas me foutre en retard. Si tu viens pas, je m'en vais, je te dirai ce que j'en pense. Je passerai pour l'apéro à 7 heures, au plus tard. Et une fois que 19 heures arrive, ça y est, me v'là revenu, j'en ai les jambes coupées. J'ai vu assez de salauds pour le restant de mes jours et c'est pas le genre d'histoire qui sera vite étouffée. T'en entendras causer, crois-moi, pis même les sourds. D'abord, le tribunal. Une vraie rigolade. Les carottes étaient cuites, archi-cuites. Au début, le pilote s'en foutait. Mais les petits camarades, ils gueulaient maximum aussi fort qu'ils ont pu. Le mec, il était là, mais il n'a pas dit grand-chose. Et puis, j'étais trop loin, j'ai pas bien entendu. Tout le monde braillait là-dedans. Mais pour plaider sa cause, il n'y a personne qu'à moufter, ni l'avocat non plus. Une vraie mascarade. Et je suis sûr que ce gars-là, il est blanc comme l'agneau. Tu peux dire que le pilote et les petits camarades, ça fait avec nous autres une belle bande de salauds. On a beau être voyous, vivre comme des malhonnêtes, il y a tout de même des machins qui vous foutent le bourdon. Tout était combiné, même la croix qui était prête. Et quand il vous y colle, on sait que c'est pour de bon. Et puis la croix maintenant, c'est toi qui te la coltine. C'est nouveau, je te préviens si ça t'arrive un jour, tout seul, et ça sur le dos, jusqu'en haut de la colline. Il s'est juste arrêté pour faire un petit discours. Il était juste en face d'un ramassis de bonnes femmes qui chialaient comme des veaux. Faut dire, il y avait de quoi. Il leur a juste dit « Pour le salut de vos âmes, il vaudrait mieux pleurer sur vous-même que sur moi. » Et sa vieille était là, la pauvre mémère, toute seule. Il n'y aurait pas eu un mec pour lui donner la main, surtout quand son fisson, il s'est cassé la gueule 3 fois de suite sous les coups de ces enfoirés de Romains. Moi, ça m'a foutu le noir. Pourtant, je suis pas sensible, mais j'étais tout barbouillé, j'étais cœur sur carreau. Faut dire que le populo, ils sont vraiment terribles. Ils sont pour la plupart plus fumiers que les bourreaux. Ils l'ont cloué là-dessus et tout le monde est parti. Bref, je ne suis pas revenu pour gâcher la soirée. Mais ça s'arrête pas là, parce que c'est pas fini. Les deux autres, ah ben oui, pardonne-moi si je m'excuse, hein. Eh ben je les ai pas vus et j'y ai pu penser. Ils sont toujours là-haut. Vas-y si ça t'amuse, hein. Moi ça va bien comme ça, j'en ai vu bien assez. Polo, tu me connais bien, tu sais que t'es innocent, je m'en fous complètement et j'en ai même pas peur. Mais tu vois ce que j'ai vu. Ça m'a glacé les sangs. Un mot que je dis jamais, Polo. Ça m'a fait peur.
Asiatic tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Allez, on va se calmer. Toutefois, je voudrais revenir un tout petit peu sur la crucifixion. Bernard Dimet n'a jamais cherché à être provocateur vis-à-vis de la religion. Il n'était pas anticlérical, d'accord. Il faut bien entendre dans la crucifixion qu'au contraire, il y a énormément d'empathie, je crois, de sa part. Je voulais donc rectifier cela pour certains auditeurs. Mais donc, je vais terminer aujourd'hui par un autre poème de Bernard Dimet, en changeant radicalement d'idée. J'ai dit au début qu'il était toujours très inquiet de la mort. Et il a donc écrit plusieurs poèmes sur ce sujet-là. Mais il était également inquiet de la vieillesse. Il se voyait vieillir et il avait très peur de cela. Et donc, le dernier poème, qui s'appelle « 40 ans », traite ce sujet. « 40 ans. 40 ans, mais c'est le bout du monde. Je me suis dit cela, c'était à peine hier, et voilà qu'aujourd'hui, c'est question de secondes. 40 ans, pas déjà. Sinon, à quoi ça sert d'avoir eu 18 ans, des cerises à l'oreille et des fleurs aux cheveux, d'avoir tant espéré? L'amour à lui tout seul était une merveille, et puis le temps passait, dont je n'ai rien gardé. 50 ans. 50 ans, c'est presque ridicule. Je n'ai rien fait du tout, sinon quelques erreurs. L'innocent que j'étais, je le vois qui recule. Il peut bien s'en aller, je le connais par cœur. Je le connais déjà depuis 50 années, de face et de profil, en noir et en couleur. Et ses anges gardiens, et ses âmes damnées, je sais ce qui l'enchante et ce qui lui fait peur. 60 ans. 60 ans, non, ce n'est pas possible, pas aujourd'hui. Demain, dans une semaine ou deux. Hier, on me traitait encore d'enfant terrible. Comment aurais-je fait pour être déjà vieux? 60 ans, oui, déjà. C'est beaucoup pour mon âge. Pauvre petit jeune homme, on a des cheveux gris, on est un peu morose, on va devenir sage. On n'a pas fait grand-chose et on n'a rien compris. 70 ans passés, la jeunesse commence. Je vais me répéter ces mots-là tous les jours. Je vais déambuler en pleine adolescence, perdre mes illusions, réinventer l'amour. Déjà 70 ans, c'est le temps du bonheur pour l'homme que je suis. C'est l'âge des victoires et j'ai tout ce qu'il faut pour faire un beau vainqueur. Mais j'ai 70 ans. Et j'ose à peine y croire.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit, de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore. Travailler encore, acier rouge et main d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir.
Je ne sers plus à rien, moi. plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Acier rouge et mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Acier rouge et mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Eh bien, merci Hervé pour tous ces jolis textes de Bernard Dimé, qui effectivement, même s'il n'est pas très connu par le grand public, mérite vraiment le détour.
Mais il est très connu par les musiciens, ça j'ai vraiment remarqué ça.
Mais vraiment, il a des textes qui sont magnifiques.
On peut le dire.
Alors, je voudrais juste lancer une petite polémique, pour le plaisir. Oui, je n'ai pas voulu interrompre l'ambiance que tu as su créer avec les textes de Bernard Dimé, mais quand même, il y a un truc qui m'a choqué l'oreille.
Vas-y.
Quand en présentant la crucifixion, tu as parlé du Christ et avec ses deux complices. C'est quand même un petit peu gonflé, oui, non vrai.
Mais il faut se mettre à la place de Ponce Pilate. À l'époque, Bernard Dimé n'était qu'un prédicteur. Voilà pourquoi j'ai utilisé ce terme-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est choquant.
Alors j'espère qu'on n'aura pas choqué certains auditeurs, que... Bah les deux complices dont tu parles, c'était tout simplement deux bandits.
Deux voleurs, hein,
on peut dire ça.
Ça oui.
C'était, tu te souviens de leur nom ?
Absolument pas.
Il y avait Barabbas, je crois. Et puis, ah, j'ai oublié le nom du deuxième. T'as pas appris ça quand tu étais petit ?
Non. Non,
t'as pas appris pas, ça.
Je suis désolé.
Et bah, ça
ou alors j'ai sûrement appris, mais donc je l'avais oublié depuis le temps.
Ouais, bah, ça manque à ta culture.
Je
c'est
suis
dommage.
Extrêmement vieux.
Bien, en tout cas, merci pour tous ces jolis textes. Ce fut vraiment un plaisir d'écouter Bernard Dimé. Nous nous retrouverons le mois prochain. As-tu une petite idée, Hervé, de ce que tu vas nous lire, comme d'habitude ?
Aucune !
Comme d'habitude. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir écoutés et au mois prochain.
Au revoir.